Bonjour à tous et à toutes. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, en particulier quand nous habitions en région parisienne, de me rendre à la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la visiter. Et j'ai toujours été frappé par l'immense fil de personnes qui venaient, dont je faisais partie aussi du coup, pour aller visiter ce bâtiment. Et je me souviens avoir discuté avec une personne qui disait qu'elle aimait bien se rendre régulièrement dans un bâtiment religieux comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou une autre église, et qu'elle aimait admirer l'architecture, les vitraux et autres choses de ces bâtiments, de ces églises. Et je lui demandais, mais n'y a-t-il pas plus que des vitraux et une belle architecture? Et cette personne de me répondre, « Ah, mais vous savez, moi je suis croyante, mais pas pratiquante. » Se peut-il qu'il y ait des personnes qui fréquentent une église, quelle que soit la dénomination de cette église, qui fréquentent une église parfois même depuis des années, des personnes qui se sont fait baptiser, qui ont fait profession de foi, et qui pourtant sont spirituellement mortes. Autrement dit, des personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas d'authentiques disciples de Jésus. Et c'est avec cette question que, j'en conviens, dérange, que je vous invite à aller dans la cinquième lettre que le Seigneur Jésus a adressée à son Église. Dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit de la lettre à l'église de Sardes. Et nous allons lire donc au chapitre 3, les six premiers versets. Le texte est affiché, vous pouvez suivre sur l'écran ou dans votre Bible. Et à l'ange de l'église à Sardes, écrit « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » Je connais tes œuvres, tu as la renommée d'être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si donc tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le vainqueur se fera revêtir de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Quel message notre Seigneur Jésus a adressé aux chrétiens de Sardes et quel message pour nous aujourd'hui? Cette lettre commence, comme toutes les autres lettres, par un bilan. Un bilan dans lequel d'abord Jésus se présente comme celui qui a les sept esprits de Dieu. Les sept esprits représentent symboliquement toute la plénitude. Le chiffre 7 désigne la plénitude de l'Esprit Saint. Cet esprit, l'Esprit de Dieu qui agit, qui est présent au sein des églises. Et cette manière de se présenter signifie que Jésus a une connaissance de tout ce qui se passe dans les églises. Il voit la réalité qui est cachée derrière les apparences. Jésus peut donc dresser ici un bilan, et voici le bilan qu'il dresse à l'église de Sardes. « Je connais tes œuvres, tu as la renommée d'être vivant et tu es mort. » Et à cela, il ajoute à la fin du verset 2 « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Église morte, œuvres imparfaites. Ça peut vouloir désigner bien des choses. la piété de cette Église, des membres de cette Église. Quand on parle d'Église ici, on ne parle évidemment pas d'un bâtiment, mais on parle des personnes, des croyants qui étaient là dans cette Église de Sardes, de la ville de Sardes. Eh bien, leur piété était devenue une parure extérieure, en vue d'être peut-être bien vue dans la ville. Ils avaient d'ailleurs la renommée d'être vivants extérieurement. Mais leur vie intérieure attestait d'une toute autre réalité. L'Église de Sardes n'entretenait pas une relation nourrie, personnelle avec son Dieu. L'Église de Sardes n'allait pas jusqu'au bout de son engagement, de son amour et de son service pour son Seigneur. L'Église de Sardes n'endossait plus son rôle de témoignage dans le monde. Elle qui fait partie de ces chandeliers dont il est question dans le chapitre 1 de l'Apocalypse au verset 20, ces chandeliers qui représentent les églises, ces chandeliers sont là, les églises sont là censées briller dans le monde. Et on l'a entendu encore dans la première partie de ce culte tout à l'heure. Mais la flamme de cette église s'éteignait à petit feu. Cette église était sur son déclin. C'est ce qu'on lit au verset 4, c'est dans cette église, certains ont souillé leurs vêtements. J'affiche le texte ici, hein, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ça veut dire que les autres l'ont fait, ils ont souillé leurs vêtements, ça indique qu'on pratiquait une certaine accommodation avec le monde. Ils prétendaient être chrétiens, mais ils vivaient de manière différente de leur profession de foi. La souillure dans la Bible désigne le péché. Il y a un péché qui s'est immiscé dans cette église. On ne sait pas plus quoi en particulier. Il n'est peut-être pas visible des hommes, mais Jésus voit toutes choses. Et l'église de Sardes, si elle a pu obtenir une bonne réputation, une bonne renommée de la part des hommes, ce n'est pas le cas pour Dieu, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, il voit la vie intérieure. Dieu connaît les réelles intentions, les réelles motivations qui sont derrière nos actes. Déjà dans l'Ancien Testament, bien des prophètes ont cherché à mettre en garde contre une piété qui n'était que extérieure et qui n'impliquait pas le cœur, qui n'impliquait pas notre être intérieur. Je cite un exemple dans le prophète Ésaïe. Le Seigneur dit: ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. Et Jésus cite ce texte du prophète Ésaïe dans Matthieu chapitre 15, je l'ai mis aussi là sur le diapo, dans le contexte où il cherche à reprendre les pharisiens, qui, eux aussi, cherchaient à avoir une bonne apparence, à être bien vus de la part des hommes, de leurs contemporains, avoir la réputation d'hommes pieux. Mais Jésus connaissait l'intérieur de leur cœur. Un peu plus tard, Timothée était confronté à un problème un peu similaire à Éphèse, lorsque Paul lui adresse la seconde lettre à Timothée. Je lis ce passage dans 2 Timothée 3, verset 5. Les hommes, alors dans le contexte, ce sont les hommes dont il vient de parler, c'est-à-dire ceux qui aiment le plaisir plutôt que Dieu, les hommes-là resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Finalement, l'attitude qui est reprochée dans tous ces passages, c'est l'hypocrisie. C'est vouloir passer pour ce que l'on n'est pas réellement, c'est un manque d'authenticité. J'ouvre une petite parenthèse, mais dans la Grèce antique, l'hypocrite, ce n'était pas comme aujourd'hui, ce qu'on désigne aujourd'hui à l'époque, l'hypocrite, ça désignait un acteur de théâtre qui endossait un rôle qui n'était donc pas le sien, il mettait un masque et il était l'hypocrite. Et puis petit à petit, ce mot hypocrite en est venu à désigner des personnes qui se faisaient passer pour des charlatans finalement, et puis ça a finalement eu la connotation très péjorative jusqu'à aujourd'hui, où quand on parle d'hypocrisie, d'hypocrite, c'est évidemment très négatif. Je ferme la parenthèse. Tout cela pour dire ici la gravité de ce bilan. Et nous pourrions difficilement trouver quelque chose de plus tragique que le qualificatif « mort » pour désigner justement une église qui est pourtant destinée à être une lumière dans le lieu là où le Seigneur l'a placée. L'église de Sardes est l'église qui reçoit la lettre la plus terrible, la plus sévère des sept lettres d'Apocalypse 2 et 3. Contrairement aux autres, cette lettre ne contient aucun éloge. S'ensuivent, après ce bilan, s'ensuivent cinq exhortations dans le verset 2 et le début du verset 3. La première exhortation, c'est « Sois vigilant ». Jésus là invite à la vigilance parce que certains ici s'étaient assoupis ou même complètement endormis dans leur fauteuil spirituel, si on veut imaginer un peu les choses. C'est un appel ici à se réveiller de sa torpeur, de sa léthargie spirituelle. La vigilance, c'est l'attitude à adopter pour justement se tenir prêt en vue de du retour du Seigneur Jésus, dont il est question à la fin ici du verset 3. Plusieurs fois dans les évangiles, Jésus a exhorté ses disciples à veiller, à tenir prêt. Et cette vigilance doit nous tenir en haleine à chaque instant. Je vous renvoie à la prédication que Pierre a faite pas plus tard que dimanche dernier sur la seconde lettre de Pierre au chapitre 3 et le retour de Jésus. Seconde exhortation, affermis-toi. Affermis le reste qui est sur le point de mourir. L'Église ici était sur le point de perdre le peu qui restait de ses membres vivants jusqu'au dernier. Mais pourtant la situation n'est pas désespérée, parce qu'il subsiste en son sein un reste, un petit reste de croyants qui demeure fidèle au Seigneur. Et parfois, et même souvent, et on l'a vu dans l'histoire de l'Église, c'est à partir d'une minorité que des choses se sont mises en route, réveillées, pour réveiller la majorité. Comme le dit John MacArthur dans son commentaire, je cite, « Christ exhorte les vrais chrétiens de Sardes à souffler sur les braises mourantes des grâces spirituelles restantes dans leur Église. » Ça, c'est la deuxième exhortation. La troisième, « Rappelle-toi, souviens-toi, comment tu as reçu et entendu la parole. » Souviens-toi comment tu as reçu la parole de Dieu. Souviens-toi comment l'Esprit de Dieu a agi en toi, à tes débuts. Jésus se présente ici, au début de la lettre, je le mentionnais tout à l'heure, comme celui qui a les sept esprits, ça désigne l'Esprit Saint dans toute sa plénitude. Et bien par conséquent, l'Église de Sardes, qui en est arrivée à un stade où elle est assoupie, endormie, morte spirituellement, elle devait se rappeler que l'Esprit Saint peut lui donner la vie. L'Esprit est celui qui communique la vie dont l'Église de Sardes a tant besoin, elle qui est spirituellement morte. Quatrième exhortation, garde-la, garde la parole. Tu l'as reçue, mais maintenant garde-la. Probablement que les chrétiens de Sardes étaient tentés, justement pour avoir cette bonne renommée dans le monde, d'altérer l'enseignement des apôtres pour prendre ce qu'ils voulaient et rejeter les choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord et pour coller avec la culture et la société ambiante. Mais Jésus les exhorte ici. Garde la parole. Reviens à la parole de Dieu. Garde-la sous-entendu. Garde-la telle que tu l'as reçue, sans y ajouter ou en y retrancher quoi que ce soit. D'ailleurs, cet avertissement à ne pas altérer la parole, à ne rien ajouter, à ne rien retrancher, c'est ainsi que se terminera le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, avec un avertissement sévère. L'auteur du psaume 119 écrit ceci, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Si c'était uniquement ici la serrer pour connaître des choses sur Dieu, ça ne sert à rien. Mais c'est la serrer, la garder pour éviter de dévier des commandements de Dieu, comme le dit le verset 10, juste avant, pour mener une vie d'obéissance, en reconnaissant avec diligence l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie. Cinquième exhortation, repens-toi. Du verbe se repentir. C'est la finalité ici qui découle de tout ce qu'on vient de dire. Le but, c'est justement cette repentance, c'est-à-dire ce changement de vie, cette obéissance véritable à Dieu et à sa parole. C'est marcher par l'Esprit Saint, cet Esprit qui donne la vie. Le but, c'est de s'accrocher aux vérités qui sont communiquées dans la parole de Dieu. Et si besoin, de changer de direction pour réaligner notre vie avec la volonté de Dieu. Voilà ces cinq exhortations pour cette église de Sardes. Pour nous aujourd'hui aussi, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Comme les autres lettres, Jésus laisse aussi un avertissement dans la fin du verset 3. Il dit « Si donc tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur ». Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Dans les évangiles, ce langage est utilisé à propos du retour de Jésus à la fin de la fin des temps. Par exemple, dans Matthieu 24, versets 42 et suivants. Mais ici, il y a l'un ou l'autre élément qui pourrait faire pencher l'interprétation sur une intervention du Seigneur du temps de l'existence de l'Église de Sardes. L'un de ces arguments, c'est que la venue de Jésus, ici, elle est exprimée en termes conditionnels. Il dit « si donc tu n'es pas vigilant », sous-entendu « alors ». Et puis un deuxième argument, c'est le contexte historique et géographique de cette ville de Sardes. Sardes était située sur une colline d'environ 300-400 mètres d'altitude avec des falaises tout autour. Et la ville était au milieu. On y accédait uniquement par une petite crête et ça rendait le site de cette ville quasiment imprenable, inaccessible. Et bien sûr, les habitants de Sardes le savaient bien, personne ne pourra prendre la ville, disaient-ils présomptueusement. Et pourtant, l'histoire de cette ville de Sardes devrait leur rappeler qu'au 5e, au 6e siècle et au 3e siècle avant Jésus-Christ, la ville avait été quand même prise par des ennemis qui avaient réussi de nuit à se faufiler par un endroit qui n'était pas surveillé, mais les habitants étaient trop confiants. Et apparemment, l'église de Sardes s'est laissée attirer aussi dans cette insouciance, dans cette nonchalance, comme les habitants de la ville elle-même. Et c'est pourquoi Jésus la met en garde et l'appelle à la vigilance. Il ne faudrait pas que les croyants de cette ville se laissent surprendre par le Seigneur, justement par nonchalance ou par insouciance. C'est encore maintenant, c'est encore le moment de se repentir, de changer de comportement, d'attitude. Puis Jésus adresse non pas une, non pas deux, mais une triple récompense, comme nous le lisons dans les versets 4 et 5. Une triple récompense, ça peut paraître paradoxal à cette église qui est morte, là où d'autres se portent bien mieux, où il y a une récompense, là il y en a trois. Cependant, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Fort heureusement, tous ne sont pas spirituellement morts. Il y a au sein de l'église de Sardes un petit reste de croyants qui n'ont pas peur de briller dans ce monde, d'apporter leur témoignage dans ce monde d'obscurité et d'être cette lumière-là dans ce monde de ténèbres. Ceux et celles qui n'ont pas souillé leurs vêtements y seront au bénéfice de cette récompense, de cette triple récompense. Eux et aussi tous ceux et celles qui se seront repentis de leur attitude, de leur péché, de leur nonchalance, de leur torpeur, de leur léthargie spirituelle. Donc la récompense est triple. Tout d'abord, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils marcheront. La marche dans la Bible désigne la vie du croyant. Ça caractérise la vie du croyant. Le croyant est invité à marcher. Et dans le Nouveau Testament, je vais vous citer tout un tas d'occasions, là, de textes, de versets où on est invité à marcher en nouveauté de vie, marcher par l'esprit, marcher selon l'amour, marcher par la foi, marcher avec honnêteté, marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce verset d'Éphésiens 2, verset 10, qu'on connaît souvent par cœur, hein, c'est le verbe marcher qui est utilisé littéralement, hein, dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions, dit le texte littéralement. Marcher d'une manière digne de notre vocation, Éphésiens 4, verset 1. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière, Éphésiens 5, verset 8. Marcher dans la sagesse, marcher dans la vérité. Le croyant, dans la Bible, c'est quelqu'un qui marche. La marche est synonyme de la vie chrétienne. Celui qui est assoupi, il est assis. Celui qui est mort, il est allongé. Mais celui qui vit pour Dieu, il marche, il est en action, il est en mouvement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors vous imaginez bien qu'on ne va pas passer l'éternité à marcher derrière Jésus. C'est une image ici, une image avec cette mention des vêtements blancs. Ça symbolise la reconnaissance par le Seigneur de la pureté de ces personnes, de leur obéissance au Seigneur, eux et elles, qui n'ont pas souillé leurs vêtements avec la complaisance du monde, etc. C'est cette première récompense aux vainqueurs, c'est-à-dire à tous ceux et celles qui ont authentiquement placé leur foi en Jésus-Christ. Une foi qui se traduit dans des actes concrets pour la gloire de Dieu. Seconde récompense, le vainqueur se fera revêtir de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. L'église de Sardes avait reçu, on l'a vu au verset 1, de la part des hommes un nom basé sur les apparences. Ils avaient une bonne renommée, une bonne réputation. Mais le vainqueur ici, lui, il verra son nom figurer éternellement dans le livre de vie. Le livre de vie, qu'est-ce que ça désigne ce livre de vie ? C'est le livre dans lequel Dieu a consigné depuis les origines du monde. C'est pas moi qui le dis, hein, le « depuis les origines du monde », c'est Apocalypse 13, verset 8 et 17, verset 8. Dieu a consigné dans ce livre les noms de ceux et celles qui lui appartiennent, ses enfants, ceux qu'il destine à la vie éternelle, comme on le lit dans Actes 13, verset 48, ceux qu'il destine à la vie éternelle. Sur la terre, à la mort d'un citoyen, on efface son nom des registres. Mais le vainqueur ici, son nom subsistera toujours, parce qu'il est inscrit depuis toujours et pour toujours dans le livre de vie. Et au jour du jugement, lorsque Jésus sera revenu, le livre de vie sera ouvert et les êtres humains seront jugés selon ce qui est écrit dans ce livre de vie. Et tous ceux dont le nom n'y figurera pas seront précipités dans l'étang de feu, c'est ce que nous lisons dans Apocalypse, au chapitre 20, les versets 11 à 15. Cette promesse ici, « je n'effacerai pas son nom du livre de vie », n'implique pas que les noms des personnes qui y sont inscrits pourraient être effacés. Et c'est important à mentionner. On est face ici à une promesse et non pas une menace, non pas un avertissement comme on l'a au verset 3, à la fin du verset 3. On est face à une promesse, la promesse que Jésus a faite de ne pas effacé son nom du livre de vie. On peut voir cela comme une assurance que ce nom ne sera jamais effacé. Troisième récompense. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, malgré l'oppression qu'il peut y avoir dans ce monde, peut-être même la persécution, comme on l'a vu dans d'autres églises, d'autres lettres, eh bien verront à leur tour leur nom confessé par Jésus-Christ lui-même. Et Jésus ici répète ce qu'il avait déjà lui-même dit. On le lit dans Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Jésus avait dit ici, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et le contexte de ce verset, de ces deux versets que nous venons de lire, c'est celui de l'épreuve et de la persécution. Comme on le voit dans le verset 28 que j'ai affiché juste au-dessus, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans les temps de feu. » Jésus nous invite ici à ne pas avoir peur d'être témoin dans ce monde, quitte même à être chahuté, quitte même à être persécuté par ce monde. D'ailleurs, le fait que Jésus dise ici que je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, c'est une affirmation que nous lui appartenons. Et quelle joie et quel réconfort de savoir que nous appartenons à Jésus-Christ. Il nous a rachetés, nous l'avons chanté tout à l'heure. Il nous a rachetés, il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés de la condamnation qui pesait sur nous. J'aimerais ajouter une chose ici. Sardes, c'est la seule église parmi les sept de Apocalypse 2 et 3 qui n'est pas troublée par la persécution, comme c'est le cas par exemple à Smyrne, ou qui n'est pas troublée par un faux enseignement, comme c'est le cas alors là à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, dans ces autres églises dont nous avons déjà parlé. Il n'est pas mention de Balaam, ni des Nicolaïtes, ni de Jézabel, comme on l'a vu dans la précédente lettre. Et pourtant, l'Église est morte. C'est pas paradoxal un peu ça? En fait, c'est précisément parce que l'Église est morte qu'elle n'est plus la cible de l'ennemi, du diable. Après tout, pourquoi embêter une église qui est morte, qui ne rayonne plus? Le diable, il a fort à faire ailleurs. Mais une église qui ne rayonne plus, des chrétiens qui ne sont plus des petits flambeaux dans le monde, pas besoin de les éprouver plus, ils font exactement ce que le diable a envie. Ils sont éteints, ils sont morts. Et ça me semble important de dire cela, de mentionner cela, parce qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans l'écueil de penser que si je ne suis pas persécuté, si je ne fais pas face à un faux enseignement, alors je peux avoir des doutes quant à l'authenticité de ma foi. Il ne faudrait pas tomber dans cet écueil-là pour autant. Ces luttes-là sont des luttes qui sont extérieures et que nous ne maîtrisons pas. Elles sont extérieures et les chrétiens, selon là où ils vivent, vont avoir des luttes extérieures différentes. On n'est pas tous logés à la même enseigne, si on peut dire les choses comme cela, dans ce domaine. Ceci étant, c'est important de le rappeler aussi, Jésus nous a dit que la vie chrétienne est exigeante parce que nous suivons, nous marchons à la suite d'un Dieu qui est exigeant. Il suffit de voir comment Jésus a mené sa vie. Et nous, ses disciples, nous marchons dans les pas de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et en tant que disciples de Jésus, attendons-nous à vivre des luttes intérieures, contrairement aux luttes extérieures que j'ai mentionnées juste avant, des luttes intérieures pour lire la parole de Dieu, pour prier avec davantage de ferveur, pour ne pas céder face à la tentation, pour ne pas nous laisser modeler par le monde, pour ne pas nous laisser modeler par nos désirs personnels, intérieurs, mais pour nous laisser modeler et façonner par le Saint-Esprit en nous plaçant à l'écoute de la parole de Dieu. Il me semble que ces luttes intérieures-là, nous y sommes tous confrontés. Et c'est souvent là, dans ces luttes intérieures, où l'on peut avoir tendance à s'assoupir, voire même à s'endormir, à tomber dans une torpeur, dans une léthargie spirituelle. C'est là, en particulier, qu'il nous faut veiller. Par contre, on peut passer toute notre vie sans être persécuté, comme ce serait le cas pour des chrétiens, dans tel ou tel pays du monde, où la foi chrétienne est très vivement persécutée. Donc, distinguons bien les luttes extérieures des luttes intérieures que nous sommes tous face à cela, ces luttes intérieures. Cette lettre, comme les six autres, se termine avec ces mots « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Ce message que Jésus adresse à l'église de Sardes, il l'adresse à toutes les églises de tout temps et il l'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Il y a la place ici pour vivre une saine remise en question, sans culpabilisation, mais vraiment en se plaçant devant le Seigneur, en se laissant toucher et reprendre avec humilité, comme nous l'avons chanté aussi tout à l'heure, se laisser reprendre, toucher là où c'est peut-être nécessaire dans notre vie, d'être réactivé, réveillé. J'affiche la diapo un peu récapitulative de tout ce que nous avons vu. Réfléchissons chacun en nous-mêmes, devant Dieu, personnellement. Se pourrait-il qu'il y ait dans ma vie personnelle des facteurs qui seraient signes d'un assoupissement, d'un endormissement spirituel? Par exemple, dans ce que j'ai pu partager juste avant, mon rapport à la parole de Dieu, à la prière, où je manque de combativité dans ce domaine, ou encore peut-être la perte de vue de la majesté de Dieu, de la crainte de Dieu. Est-ce que j'ai une certaine autosuffisance à penser que par moi-même je vais pouvoir m'en sortir, tout seul, sans compter sur le Seigneur? Se pourrait-il que je chante dans l'église le dimanche matin avec tous mes frères et sœurs, mais de manière machinale, sans faire vraiment attention à ce que je chante? Se pourrait-il que je lise la Bible, même tous les jours, mais là aussi de manière machinale, sans me laisser toucher, reprendre par ce que Dieu veut me dire? Se pourrait-il que mon service en tant que chrétien, disciple de Jésus, soit orienté vers moi, au lieu d'être une expression de l'amour pour Dieu et pour mon prochain? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je place Dieu au centre, au cœur de ma vie? Ai-je vraiment à cœur d'aimer Dieu, de le suivre, de lui obéir, de me repentir quand il y a besoin? Est-ce que je suis davantage porté ou attiré par les attraits du monde, qui sont souvent des attraits saisissables là tout de suite, au détriment des promesses de Dieu pour demain, après-demain? Et parfois, on se laisse attirer par les choses qu'on peut là tout de suite, les plaisirs de la vie qu'on peut toucher là maintenant, et on en oublie les promesses que Dieu nous a faites et qui auront une répercussion dans l'au-delà. Ai-je à cœur de marcher par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de laisser Dieu diriger ma conduite par son Esprit, et de me laisser modeler, façonner par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Ai-je à cœur d'être un témoin de Jésus-Christ, là où Dieu m'a placé, sans craindre ce qui peut arriver en retour, des moqueries, peut-être même des persécutions, des épreuves. Tout cela étant dit, je ne veux surtout pas semer le doute dans notre esprit, dans notre tête à chacun. Je ne veux pas qu'on ressorte là en se disant « Mais est-ce que je suis sauvé ?» C'est pas ça le but. Je ne veux pas risquer de nous culpabiliser, mais bien plutôt nous rappeler que aussi nous ne serons jamais parfaits dans cette vie. Le salut s'obtient par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Ceci étant dit, cette foi seule, cette foi authentique en Jésus, elle ne demeure pas seule. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Elle ne demeure pas seule. La foi authentique se traduit en actes d'obéissance, de consécration à notre Seigneur Jésus. Et donc vous voyez qu'on est sur un chemin de crête en permanence. Tout en étant conscient que nous ne serons jamais parfaits dans cette vie, en même temps la parole de Dieu nous exhorte à marcher de progrès en progrès. Et donc on est là et on chemine. Et quand on chute, quand on pêche, on n'a pas d'autre recours que de revenir à Jésus, de lui confesser notre péché, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec ce chant, « Seigneur, pardon, pardon Seigneur, pour ceci, pour cela. » N'ayons pas peur de revenir à lui, de lui confesser notre faute, de lui demander pardon, de nous repentir, de changer et de continuer à marcher en se confiant en lui. Ce texte de la lettre à l'église de Sardes nous exhorte à être authentiques, authentiques dans notre vie avec le Seigneur, à qui on ne peut rien cacher, parce qu'on peut cacher beaucoup de choses à nos semblables, à nos contemporains. Mais le Seigneur, on ne peut rien lui cacher. Soyons authentiques dans notre vie avec le Seigneur, tout en étant conscients de notre imperfection, mais vivant, vivant par la grâce de Dieu, vivant grâce à Dieu qui nous fait grâce, justement, cette grâce qu'il nous a manifestée par le sacrifice de Jésus à la croix, et aussi en comptant sur l'aide et le secours du Saint-Esprit. Amen.